Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons. Trois fois.
Cinérama sur Divergence FM.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue à l'émission du mercredi 3 mars de Cinérama. Bonjour Martin.
Bonjour.
Aujourd'hui, un sommaire touffu avec deux gros plans, voire trois. Alors notamment, il y aura celui sur Roman Polanski qui sort tout nouveau long métrage, The Ghost Writer, qui sort aujourd'hui. Et puis toi, tu vas nous parler d'un compositeur. Hein.
Oui, alors comme ponctuation musicale pour aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler très très rapidement. Je vais surtout vous faire écouter un peu de sa musique, mais donc de Alexandre Desplat, qui a signé entre autres la musique du nouveau film de Polanski, qui a signé beaucoup de partitions pour Jacques Audiard. Donc voilà, et c'est également, il était nominé à la dernière cérémonie des Césars. C'est un des Césars qu'un prophète n'a pas remporté. Mais ça ne va pas m'arrêter, je vais faire un petit hommage donc à Alexandre Desplat. Et je vous parlerai aussi, je suis allé voir From Paris with Love, donc un très grand film de Pierre Morel, scénarisé par Luc Besson. J'en profiterai pour revenir un petit peu sur Luc Besson.
Et puis, tu as prévu aussi de parler de Nine ou pas ?
Tout à fait. Alors, je suis allé voir Nine hier. Donc ça, ce sera plutôt la partie critique. On va parler un petit peu, donc moi, de Nine et puis toi, de Shutter Island.
Oui, si on a le temps pour le coup, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses à vous faire écouter. Et notamment, eh bien, un petit résumé de la cérémonie des Césars. Ça dure 3 minutes, c'est en audio. Et eh bien, ce sera agrémenté de quelques extraits du Prophète.
Le César de la meilleure adaptation est attribué à Stéphane Brisé et Florence Vignon.
Et le César du meilleur son est attribué à Pierre Escoffier, Bruno Tarrière et Selim Azazi pour leur concert.
Et le César du meilleur scénario original est attribué à Jacques Audiard, Thomas Bidguin, Abdelraouf Dafri et Nicolas Peufaillé pour Un prophète.
T'as plus peur de moi, c'est ça?
Et le César est attribué à Stéphane Fontaine pour Un prophète.
Le César du meilleur espoir féminin est attribué à Mélanie Thierry.
Le César est attribué à L'enfer d'Henri-Georges Clouzot, réalisé par Serge Bromberg et Luc Sandrin.
Le César est attribué à Gran Torino.
Et le César est attribué à Juliette Welfing pour Un prophète.
Bon. Oh, tu m'écoutes ou quoi?
Et le César est attribué à Michel Barthélémy pour Un prophète.
Parce que les autres sont partis, c'est ça ?
Le César du meilleur court-métrage est attribué au film C'est gratuit pour les filles, réalisé par Pierre Boget et Marie Amalfi.
Le César est attribué à Nils Arestrup.
Si tu bouffes, c'est à cause de moi. Si tu rêves, si tu penses, si tu vis, c'est à cause de moi.
Le César est attribué à
Les beaux gosses de Riyad Sattou.
Et le César de la meilleure musique écrite pour un film est attribué à Armand Amar pour Le concert.
Le César est attribué à Emmanuel De Vos.
Le César des meilleurs costumes est attribué à Catherine Leterrier pour Coco avant Chanel.
Alors la meilleure actrice, enfin, elle le mérite toute. Voilà. Ah ben c'est une amie. Voilà. Isabelle Adjani.
Ils ont vraiment de la merde dans les yeux. Hein.
Et le César du meilleur espoir masculin est attribué à Tahar Rahim.
T'as encore besoin de moi ?
Le César du meilleur acteur est attribué à Tahar Rahim.
Ça fait plaisir. Ça prouve au moins que j'ai servi à quelque chose. Parce que je peux te le dire maintenant, c'était pas gagné.
Le César du meilleur film est attribué à Un prophète.
Tu lui veux quoi, l'administration ? Rien. Alors tu fermes ta gueule et tu fais ce qu'on veut.
Voilà, dis-lui.
C'est Jacques Audiard pour le prophète.
On peut arrêter, on peut se parler sincèrement tous les deux.
Tout à coup, comment je pense à Alain Bachung, j'ai vu sa photo défiler, et c'est quelqu'un qui me manque beaucoup. Et il avait écrit de merveilleuses paroles, et notamment celle-là, et que ne durent que les moments doux, et que ne doux. Voilà. Bonsoir, merci.
Ben dis donc, c'est parti tout seul. Hein.
Voilà, ben Martin, toi, t'as pas attendu ces 3 minutes de résumé, tu t'es tapé toute la cérémonie.
Oui, je me suis un peu endormi devant cette cérémonie, voilà, qui a fait la part belle à un prophète, donc de Jacques Audiard, comme vous avez pu vous en rendre compte. Les grands oubliés, c'était à l'origine de
Xavier Giannoli,
qui est reparti, je crois, complètement bredouille.
Sauf avec la meilleure actrice.
Oui, meilleur second rôle féminin,
pour,
peut-être.
Voilà, ouais. Pour Emmanuel De Vos.
Voilà, il y a eu Welcome aussi, qui a eu peut-être un prix, mais c'est à peu près tout.
On l'a pas entendu.
Ouais. Donc voilà, non, un prophète, un immense triomphe au César, peut-être un triomphe également aux Oscars, mais le grand oublié, moi, de ce palmarès, à mon avis, c'est Alexandre Desplat, voilà, qui était nominé pour la meilleure musique, mais le compositeur du film Le Concert lui a raflé sous le nez. Donc voilà, moi j'ai choisi de faire un petit, voilà, de vous faire écouter un petit peu de Desplat. Pour rendre hommage au prophète, mais aussi au film de Polanski qui sort et dont tu vas nous parler sans doute un petit peu. Donc voilà, Alexandre Desplat, il est né en 1961 à Paris. Il va travailler assez longtemps pour la télévision, entre autres sur l'émission Les Guignols de l'Info sur Canal+. Il travaille également avec Carl Zero, dont il signe la musique de ses films Le Tronc, Sego et Sarko sont dans un bateau. Et il commence au cinéma dès 1994 avec Regarde les hommes tombés de Jacques Audiard. Donc c'est le début d'une longue collaboration avec Audiard. Il signera les partitions de tous ses films. Un héros très discret en 96, Sur mes lèvres en 2001, De battre mon cœur s'est arrêté en 2005 et finalement Un prophète en 2009. Alors il y a un autre réalisateur avec qui Desplat a beaucoup collaboré, c'est Florent Emilio Siri. Donc dès son premier film, Need Gap, Alexandre Desplat va signer la partition donc pour Siri. Il signera également celle de Otage, celle de L'ennemi intime. Et puis Alexandre Desplat est courtisé par l'Amérique assez rapidement. Il faut dire que son style lorgne un peu du côté de ses collègues hollywoodiens d'outre-Manche. Voilà, il y a un côté très symphonique, très très grande manœuvre dans la musique. Donc il va signer entre autres Syriana, donc de Stephen Gagan. Il va signer Fantastic Mr. Fox récemment, voilà, je vous avais déjà passé un petit morceau la semaine dernière, et puis plusieurs autres films, donc en passant de tous les genres, du drame à la comédie, aux films d'action. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus sur le compositeur, je vous propose plutôt d'écouter déjà un petit extrait, donc c'est justement Fantastic Mr. Fox. Voilà, on écoute. Un extrait de la bande originale de Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson signé Alexandre Desplat. On réécoutera un petit peu de sa musique tout au long de l'émission, mais pour l'instant on va passer à Polanski.
Et oui, c'était le 27 septembre 2009. La police suisse arrêtait le cinéaste Roman Polanski sous le coup d'un mandat d'arrêt américain datant de 1978. À cette époque, il prend des photos avec une jeune fille de 13 ans pour le magazine Vogue, lui fait boire du champagne, lui enjoint de prendre un peu de drogue. Ça se termine au tribunal quelques semaines après, où il plaide coupable. Mais Roman Polanski a peur après quelques jours passés derrière les barreaux et il débarque en France, laissant la justice américaine se débrouiller sans accusé. Alors Polanski est un habitué des voyages, on le verra dans ce bref rappel de sa filmographie et un bref rappel de quelques moments clés de sa vie entre le ghetto de Varsovie qu'il quitte et l'assassinat de sa femme enceinte par les disciples de Charles Manson. Ce parcours nous aidera sûrement à comprendre qu'il a préféré foutre le camp. Alors tout ça, c'est une vieille histoire qui a ressurgi cette année et fort heureusement, si on vient à reparler de Polanski qui végète toujours en Suisse, c'est à l'occasion de la sortie de son dernier long métrage de Ghostwriter avec Evan McGregor, Pierce Brosnan, un film qui a remporté l'Ours d'argent à Berlin en janvier et grappillé l'Ours du meilleur réalisateur. Alors, on peut toujours discuter hein, sur ces titres honorifiques, ces étiquettes de premier de la classe. Il n'empêche que Polanski fait assurément partie des grands réalisateurs. Alors, je suis loin d'avoir tout vu hein, du bonhomme, mais je me souviens facilement de ceux que j'ai aimés, comme Le bal des vampires, Chinatown, Rosemary's Baby, La jeune fille et la mort et Le pianiste. Et si d'autres m'ont moins intéressé, force est de reconnaître que Polanski sait y faire. Alors il a commencé très tôt à faire du cinéma, mais d'abord comme comédien dans des films polonais, certes, mais quand même. Et peu après, il est reçu à la prestigieuse école de cinéma de Lodz, où il y avait notamment Kieslowski qui en est sorti. Alors un passage remarqué, puisque ses courts-métrages vont être remarqués à l'international. En 1962, il réalise son premier long-métrage, Le couteau dans l'eau, coécrit avec Jerzy Skolimowski, hein, dont tu te souviens très bien,
oui,
Martin.
Oui, réalisateur, je crois, de Quatre nuits avec Anna, oui.
Sorti en 2008. L'histoire, Le couteau dans l'eau est l'histoire d'un couple qui part en croisière sur un voilier en emmenant à son bord un étudiant arrogant. Et la question, c'est de savoir qui tombe à l'eau. Les Polonais n'aiment pas trop le film qui trouble un peu la vision socialiste du « Tout va bien mes amis », mais ça n'empêche pas le film, bien au contraire, d'être apprécié en dehors du bloc socialiste, puisqu'il est récompensé à la Mostra de Venise et nominé aux Oscars. Alors pour un premier film, ça s'annonce bien. Pour Polanski, on écoute un petit extrait. Alors ça, c'est la musique du générique. On voit le couple et on imagine déjà, avec quelques effets de mise en scène, que ça va pas forcément bien se passer pour eux. Alors Polanski quitte la Pologne. Adieu monde socialiste et bienvenue promesse d'une vie réjouissante aux côtés de ses camarades travailleurs. Et bienvenue monde bourgeois, son alcool, sa drogue et ses filles faciles. Il s'installe à Londres et réalise Répulsion en prenant soin d'embaucher Gilbert Taylor comme chef opérateur qui avait fait la lumière du Kubrick Docteur Folamour. Alors quand on a du succès, eh bien on peut se permettre. Le premier rôle est donné à Catherine Deneuve qui interprète une jeune schizophrène qui voit son quotidien bouleversé par des hallucinations qui la conduisent inévitablement au meurtre. Film assurément angoissant, stylisé, qui vaut un Ours d'argent à Berlin en 64. Film de genre, assurément, on entend hein, déjà cette bande-son qui est pour le coup novatrice, hein, on est en 64. Alors un an après sort Cul-de-sac, une comédie avec un zeste d'érotisme, de violence, de bouffonnerie qui emprunte l'absurde à Beckett et qui remporte un Ours d'or. Alors ça pourrait commencer à lasser tous ces prix, eh bien oui, car le film suivant, en 1966, Le bal des vampires, ne remporte rien. Alors c'est un véritable hommage au film de vampires de la Hammer. Polanski dira qu'il a souhaité styliser un style. Alors on suit le professeur Abroncius, spécialiste en vampires, qui parcourt l'Europe centrale à la recherche de ces créatures en compagnie de son jeune assistant Alfred, interprété par Polanski. Alors ces vampires aspirent à une vie sociale et ont leur propre caractère. Ils peuvent être sourds, homosexuels et gardent donc un fond d'humanité. Et puis rappelons qu'il y a un bal, ce qui n'est pas rien quand même. C'est une sorte de farce, alors sans happy end, puisque les êtres assoiffés de sang eh bien, gagnent. Alors on écoute un extrait où Alfred se retrouve avec un des vampires attiré par les jeunes garçons.
Mais qui vous a dit qu'il y avait un bal ce soir?
Personne. J'allais Devinez, vous avez un si grand château, c'est possible, je crois.
Ah, s'il l'a deviné, mais c'est juste, il l'a deviné juste avec sa petite tête d'ange. Oui, Alfred, ce soir a lieu notre bal annuel. Jusqu'à l'aube, vous pourrez danser. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Qu'est-ce que vous serrez là dans vos petites menottes? Donnez, montrez-moi. Alfred, montrez-moi. Oh, voilà donc le mystère percé. C'est d'amour qu'il s'agit. Le petit cœur de quelqu'un qui bat follement dans sa poitrine. Bing bang, bing bang, bing bang, comme un rat dans sa cage. 80e manière. Placez d'abord le bras gauche autour des épaules de l'aimé. Posez ensuite la main gauche sur son épaule gauche à la façon d'un petit oiseau se posant sur une branche. Bien, excellent. Ensuite, attendez qu'un ange passe. Allons-nous attendre qu'un ange passe. Aussitôt que l'ange est passé, penchez le visage sur la nuque offerte de l'être aimé et effleurez ses boucles de vos lèvres.
Et donc après, sur cette musique, c'est forcément la course poursuite puisque, eh bien, le vampire a montré ses dents. Alors c'est Sharon Tate qui deviendra sa femme plus tard qui interprète le rôle féminin de ce bal des vampires, fort remarqué. Alors en 68, Polanski sort le thriller satanique Rosemary's Baby, adapté du roman éponyme d'Ira Levin, sorti un an plus tôt. Alors il est à Hollywood pour tourner avec Mia Farrow et John Cassavetes, un couple qui emménage fraîchement dans un immeuble. Elle est une femme joyeuse, lui un acteur de théâtre qui aimerait rencontrer le succès. Ils font la connaissance des voisins qui s'immiscent peu à peu dans leur vie. Rosemary fait un cauchemar étrange où elle croit être violée par une créature. Alors son mari s'excuse d'avoir abusé d'elle tandis qu'elle était alcoolisée. Tout pourrait rentrer dans l'ordre, mais la parano va finir par l'emporter quand les voisins deviennent de plus en plus envahissants et que la carrière de son mari, bizarrement, décolle. Un remarquable film d'épouvante qui fera date et qui remportera un énorme succès. On écoute justement le passage où c'est Mia Farrow qui se réveille et qui s'aperçoit qu'elle a des griffes sur le dos.
À quelle heure me suis-je endormie?
Tu n'étais pas endormie. Tu t'es écroulée, oui. À partir de maintenant, tu prendras du vin ou de l'alcool, mais pas de vin et de l'alcool.
J'ai fait ces rêves.
Non, ne crie pas. Tu vois, je les ai limés, ils sont aussi rares que possible. Il fallait que je te fasse un enfant. Et j'avais un ou deux oncles qui accrochaient. Oui, j'avais l'impression d'être nécrophile. Ça, c'est bizarre.
J'ai rêvé que quelqu'un me violait. Quelqu'un qui n'avait rien d'humain, une sorte de bête.
Merci. Qu'est-ce qu'il y a?
Oh, rien.
Je voulais absolument que ce soit cette nuit-là.
Nous aurions pu le faire ce matin ou la nuit prochaine. C'était tout de même pas à une seconde près.
Ouais, j'avais un peu trop bu, moi aussi.
Et voilà, et si vous revoyez le film, eh bien, vous saurez si c'est effectivement c'était à une seconde près. Alors, eh bien, ce succès n'a rien à voir avec le bide de ces deux films suivants, une adaptation du Macbeth de Shakespeare, mais qui ne convainc pas le public par sa violence, pas plus que sa comédie Quoi, avec Marcello Mastroianni. Alors, avant son Macbeth, sa femme ainsi que quatre de ses amis auront été assassinés par la secte de Branson. Autant dire que pour un cinéaste qui met de la violence psychologique dans ses films, ça pourrait ne pas s'arranger. Le grand succès, eh bien, lui intervient à Hollywood en 74 avec un hommage au film noir américain, c'est Chinatown avec Faye Dunaway et le jeune Jack Nicholson qui n'a pas encore fait vol au-dessus d'un nid coucou ou profession reporter mais déjà Easy Rider. Alors Chinatown jouit d'une parfaite maîtrise de l'intrigue, de séquences remarquables comme celle où Nicholson a la narine tranchée. C'est l'histoire d'un détective privé qui est lancé sur la piste d'un homme supposé commettre un adultère. Cet homme, ingénieur des eaux, est retrouvé, noyé. Alors, sa femme n'est pas vraiment sa femme. À la recherche de la vérité, tombant entre-temps dans les bras de la vraie femme de l'ingénieur, hein, ça, bon, c'est dans les films de détectives, ça se passe souvent comme ça, il va découvrir la vérité. Alors, si dans le scénario original, le scénario original admettait une fin heureuse, au final, Polanski a préféré une fin plus tragique. Et notons que Nicholson tournera une suite en 1990 de Two Jacks.
Hold it there, kitty cat.
You're a very nosy fellow, kitty cat, huh? You know what happens to nosy fellows?
I dislike the word cheat.
Did you have affairs?
Mr. Giddy's.
Did he know about it? Where were you when your husband died? You were seeing someone, too. For very long?
I don't see anyone for very long, Mr. Giddy's. It's difficult for me.
Mr. Giddy's, you're dealing with a disturbed woman who's just lost her husband. I don't want her taking advantage of.
The truth.
I said I want the truth! Ah!
Voilà, on entend que la vérité est obtenue par des paires de claques. On sent aussi hein, l'ambiance différente à l'intérieur de ce film avec les musiques qui installent une autre dimension à chaque séquence. Alors en 76, Polanski adapte un roman de Topor, Le locataire chimérique, qui deviendra tout simplement Le locataire. C'est l'histoire d'un emménagement qui tourne mal. La précédente locataire a voulu se défenestrer. Alors il se passe des choses étranges dans l'immeuble avec des voisins qui harcèlent le nouveau locataire, un type plutôt réservé, névrosé on va dire, interprété par Polanski en personne. Alors on retrouve ici le même thème de l'appartement maudit vu dans Rosemary Baby et Répulsion, qui confirme que Polanski est un obsessionnel.
Donnez-moi un café.
Vous ne voulez pas de chocolat ?
Non, je viens de vous dire, je veux un café.
Mais d'habitude, vous prenez un chocolat.
D'habitude, vous me servez sans me demander mon avis. Aujourd'hui, je le donne. J'exige un café.
Je m'excuse. Le problème, c'est que... la machine est encore en panne. Vous ne voulez vraiment pas de chocolat ?
Non ! Pourquoi j'en prendrais un ?
Pas la peine de vous mettre en colère.
Donnez-moi un verre de vin rouge. Je suppose que vous n'avez pas de gauloise.
C'est exact. Nous n'avons que des Marlboro.
Vous pouvez les garder. Je sais où vous voulez en venir. Espèce d'assassin ! Pas la peine de me regarder comme ça. Je commence à voir clair dans mon petit combi.
Et il a la voix au perché, Polanski. Voilà, bon, bah, on comprend vite qu'il devient un peu, trop parano. C'est terminé pour cette première partie. On reviendra dans la deuxième partie, sur ses films à partir de 79 et son mélodrame Tess jusqu'au pianiste.
Et on va passer à un réalisateur qui est peut-être moins talentueux, mais qui fait souvent autant parler de lui que Polanski l'a fait ces derniers jours. Alors la dernière fois que je suis allé chez mon médecin, le brave homme de science m'a conseillé, si je veux rester vert longtemps, de déguster au moins un légume par semaine. Oui, alors c'était avant 1991, donc avant que le lobby des légumes n'impose son 5 fruits et légumes par jour. Bref, depuis ce jour, je suis cette recommandation avec ferveur et je m'impose au moins une fois par semaine un bon gros navet, voire une courge. Alors certains me disent que je me fais du mal, que ce n'est pas la peine, mais bon, quand même, si mon médecin l'a dit, c'est que c'est bon pour la santé. Alors la semaine dernière, je me suis donc envoyé hors de contrôle de Martin Campbell, qui m'avait apporté mon comptant de fibres hebdomadaire. Mais cette semaine, vu les sorties en salle et la pénurie de croûte à me mettre sous la dent, il a fallu que je racle un peu les fonds de tiroir. Et je suis donc allé voir sans conviction From Paris with Love, donc qui était sorti en salle le 17 février dernier. Alors bien m'en a pris, parce que s'il n'y a qu'un film à conseiller en ce moment aux spectateurs qui ont des problèmes de transit, c'est bien le nouveau long métrage long-métrage de Pierre Morel, donc réalisateur de Banlieue 13 et de Taken. Alors pour sa troisième réalisation, Morel persiste et signe encore une fois avec Europacorp pour porter à l'écran un nouveau scénario de Luc Besson, donc comme sur Taken, qui, rappelons-le au passage, a été le poulain du cinéma français à l'étranger pour 2009, hein, 145 millions de dollars de recettes aux USA, c'est pas rien. Et bien donc, comme avec Taken, Morel refait appel à un casting international en choisissant Jonathan Rhys-Meyers et John Travolta pour interpréter les deux rôles principaux de ce film d'action qui s'avère typiquement bessonien. Alors je vous entends déjà souffler et marmonner dans votre barbe, oui bon ça va, il va encore tirer à boulet rouge sur Besson, c'est tellement facile, hein, le pauvre Luc quand même, c'est un complot contre lui. Eh bien oui, chers auditeurs, aujourd'hui je vais ajouter un peu d'eau au moulin de la cabale anti-Besson qui remplit depuis des années les pages des magazines critiques et des sites internet spécialisés. Alors rassurez-vous, je ne vais pas revenir sur la bêtise des histoires qu'il invente. On est tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas une once d'artistique dans les films qu'il écrit. Et lui-même serait le premier à reconnaître qu'il ne fait pas cela pour l'amour de l'art, mais bien pour l'amour du flouze. Donc, personne n'irait reprocher à un magasin de prêt-à-porter de ne pas exposer des vêtements de jeunes modistes talentueux à la place des éternels survêtements et autres jeans délavés qui se vendent comme des petits pains. Eh bien, Besson fonctionne de la même manière. Besson, c'est un marchand de films. Et il considère donc les salles de cinéma comme des magasins. Et bon, ce ne sont pas les bénéfices générés par ces films que les gens continuent d'aller voir, malheureusement, qui vont le faire changer d'avis. Voilà, le cofondateur d'Europacorp a depuis longtemps abandonné l'idée de penser le cinéma en d'autres termes que ceux du marketing et de la fidélisation de la clientèle. Voilà, grand bien lui fasse, voilà, pour ce qui est de tourner en dérision Luc Besson. Je vous propose d'écouter l'analyse pertinente de son œuvre qu'a réalisée Mosinor à l'occasion d'un passage du cinéaste sur le plateau du Grand Journal à Canal+.
Alors Luc Besson, dites-nous, c'est quoi la formule magique pour produire un film à succès ?
Faut que le héros, il soit costaud et qu'il protège une fille contre des méchants.
Et vous voilà. Nous prenez pour des cons ?1997, le cinquième élément. Un de mes préférés.
Bruce Willis, il est chauffeur de taxi et puis protège une fille attention qui est poursuivie par des méchants.
Attention ! Qui c'est qui est derrière ? Je te protégerai.
En 2002, le transporteur, ça se gâte. Des similitudes ?
Rien à voir.
Un petit peu quand même.
Non, c'est pas vraiment un taxi. En plus, il protège une chinoise.
Moi, protégez-toi, d'accord ?
Et après, il pète la gueule à un gros black.
Le baiser mortel du dragon, c'était un peu la même recette.
Bah non, parce que là, c'est le héros qui est chinois.
Je te protégerai.
Ça n'a rien à voir. Il protège une pute qui est poursuivie par des méchants. Et puis après, il pète la gueule à un gros black.
En 2007, c'est Europacorp qui a produit Hitman.
Ah ouais, Hitman. C'est un tueur à gage qui protège une pute dans une Audi. Après, il pète la gueule à un gros black.
Le taxi, les putes, les Audi, ce sont des thèmes qui vous sont chers ?
Non, pas particulièrement, il y a aussi les Yamakasi. Ouais, les jeunes, ils aiment bien ça, alors j'en mets un peu partout. Vous pouvez essayer chez vous, les enfants, hein, y a pas besoin de matériel.
Je crois que c'est vous qui faites les scénarios.
Bah, je me sers d'un ordinateur.
Ah ouais ?
C'est un générateur de scénarios aléatoires. Ça vient des States. Et voilà, un taxi protège une pute en banlieue. C'est pas mal comme idée d'ailleurs.
Ça fait penser à Taxi Driver.
C'est quoi ça ?
L'année 2008 a également vu le succès de Tekken.
Ah ouais, un Tekken mortel. La fille du héros, elle a été kidnappée pour devenir une pute. Alors après, elle est énervée, il tue des Roumains. Puis après, elle fait une poursuite avec une Audi.
Les banlieues, la drogue, les racailles, des Audi, c'est go fast. Un nouveau filon ?
Ouais, la banlieue, c'est cool. Là, c'est un flic déguisé en racaille qui conduit une Audi.
J'ai failli oublier de citer Taxi.
Ah ouais, on avait bien rigolé, ça. C'est un chauffeur de taxi qui court après des Yamakasi mongoliens qui sautent partout. Ils sont déguisés en chinois.
Des ninjas, plutôt, non ?
Non, c'était des chinois. Ça coûte moins cher. 10 millions d'entrées.
C'est mon copain ! Fais comme ça.
Voilà, un détournement de l'émission Le Grand Journal, signé par l'excellent Mosinor, dont je vous recommande chaudement les autres réalisations, souvent très réussies et très drôles. Alors on le sait, maintenant, Luc Besson conçoit ses projets avec un générateur de scénarios, dans l'unique but de se remplir les poches. D'ailleurs, on ne peut pas particulièrement le lui reprocher tant que ça marche, tant que les gens vont voir ses films. Pourquoi est-ce qu'il s'en priverait ? Le problème apparaît véritablement quand Luc Besson devient politique. Alors, dans ses films ou dans ses déclarations publiques, Besson, c'est une personnalité complexe et contradictoire. Et en tant que cinéaste et producteur de films, il possède une visibilité et un pouvoir de communication assez important, en particulier chez une certaine frange de la population qui est toujours partante pour se faire lessiver le cerveau et le libre arbitre par les icônes héroïques que Besson met en scène dans ses films. Alors attention, il ne s'agit pas de plaindre ou de traiter les spectateurs en victimes innocentes. Ceux qui vont voir les Banlieues 13 et autres Danny the Dog, dont je fais partie, n'ont qu'une envie, se faire un petit peu de place entre les deux oreilles pour accueillir 2 litres de Coca-Cola et de pop-corn après une dure journée de labeur. Alors quand même, il convient de rappeler que le cinéma populaire a de tout temps été un excellent outil de propagande. Donc des films épiques d'Eisenstein qui prenaient vaillamment le communisme, à Top Gun de Tony Scott, pour la sortie duquel certains exploitants américains ont mis leur salle de cinéma à la disposition des recruteurs de l'armée américaine. En passant par les dessins animés de la Seconde Guerre mondiale qui participaient à l'effort de guerre en montrant Popeye cassé du japonais, le cinéma a toujours été un bon moyen de parler aux foules et de faire adhérer le public au discours officiel. Alors si la propagande est plus discrète aujourd'hui qu'à l'époque du jour le plus long, il n'en reste pas moins qu'elle est toujours présente et qu'elle est devenue peut-être plus insidieuse. Ce que TF1 faisait il n'y a pas si longtemps avec son émission Le Droit de Savoir, eh bien Besson le fait aujourd'hui de façon moins officielle avec les films qu'il scénarise et qu'il produit. Son discours cinématographique, mais aussi médiatique, alterne entre une certaine subversion démagogique, un humour prosélyte et un didactisme qui, sous des atours de paroles populaires, s'avère paradoxalement être un pont d'or pour une partie du discours gouvernemental. Alors pourquoi paradoxalement ? Parce que d'un scénario ou d'un film à l'autre, le discours change et qu'on ne sait plus vraiment dans quel camp positionner Luc Besson. Alors citons quelques exemples. Par exemple, dans Banlieue 13, la banlieue française du futur est présentée comme une zone de déliquescence où seuls les héros qui possèdent une volonté et une hygiène de vie spéciale peuvent échapper à la drogue et aux gangs. Alors l'appareil policier qui est mis en scène est présenté comme corrompu jusqu'à l'os et Besson va jusqu'à placer dans la bouche d'un personnage de ministre des paroles qui font étrangement écho à celles que prononcera Nicolas Sarkozy quelques mois plus tard. Donc je cite « La banlieue 13 est incontrôlable, ça coûte une fortune à l'État et les contribuables en ont peur et marre de payer pour cette racaille ». Voilà, ça c'est un extrait de Banlieue 13. Alors la critique sociale est suffisamment évidente pour parler à tous à mon avis. Ensuite, un autre exemple, Yamakasi. Avec ce film, Besson participe à la médiatisation du parcours, donc ce sport du déplacement qui a été ensuite utilisé dans plusieurs autres films, et il tente de responsabiliser les enfants face à ce qu'ils voient au cinéma et qu'ils pourraient avoir envie de reproduire bêtement. Ensuite, encore un exemple dans la suite de Banlieue 13, Banlieue 13 Ultimatum, Besson met en scène les habitants de la banlieue, toutes nationalités, religions et idéologies confondues qui s'unissent pour faire appliquer la justice et pour éliminer un gouvernement cupide et fascisant. En 2009, Besson produit Home, réalisé par Yann Arthus-Bertrand, donc un documentaire grand spectacle dont la diffusion est encore aujourd'hui gratuite. On a ses bonnes définitions sur le site YouTube par exemple. Et au moment de sa sortie, certaines séances promotionnelles publiques et gratuites ont été organisées. Donc le film vaut ce qu'il vaut, et si chacun aura quelque chose à lui reprocher, je pense que c'est malgré tout une initiative plutôt respectable que de faire découvrir au plus grand nombre des images splendides et instructives sur le cycle de l'eau, sur l'importance de l'équilibre atmosphérique, et sur la part de l'activité humaine dans la dégradation de son propre écosystème. Alors quand en plus le même producteur nous livre de temps à autre quelques péloches sympathiques et populaires, comme Le Premier Taxi, Haute Tension, La Boîte Noire ou Ne le dis à personne, eh bien le moins qu'on puisse dire c'est que finalement en baissant à certaines facettes plutôt intéressantes. Alors avant de continuer, je vous propose de faire une courte pause musicale, méditer ce que je viens de vous dire. Voilà, Besson c'est quand même quelqu'un qui fait dans l'éducatif, etc. Donc on va écouter juste un petit morceau de Alexandre Desplat et puis je reviendrai pour conclure sur ce personnage de Luc Besson et sur le film From Paris with Love que j'étais quand même, dont j'étais quand même censé parler un petit peu. Thank you. Voilà donc un extrait de la bande originale de Un héros très discret de Jacques Audiard, signé Alexandre Desplat. Alors on l'a vu juste avant cette petite pause musicale, Luc Besson possède certains côtés plutôt sympathiques. Mais bon, où est la part de démagogie, où est la part de calcul commercial? Et faut-il considérer ces prises de position, comme avec Home de Yann Arthus Bertrand, comme de véritables professions de foi, ou comme une façon d'être en phase avec les contradictions de son public? Il ne faut pas oublier que Luc Besson, c'est avant tout un marchand de pellicules au kilo. Il suffit de regarder quelques-uns de ses films pour s'en convaincre. Et cette production est généralement le lieu d'un étalage de stéréotypes et de raccourcis inquiétants, surtout quand il concerne la représentation au cinéma de certaines minorités sociales ou ethniques. Alors stigmatiser la banlieue, ça passe aussi, même dans un cadre de fiction, par cette représentation d'un lieu marginal, où la loi du plus fort est la seule opportunité possible face à un gouvernement posé comme un archétype du mal, et face à des pouvoirs publics démissionnaires. Entretenir la peur et la xénophobie, ça passe aussi par une utilisation systématique de certains clichés raciaux, du genre les Asiatiques sont tous des trafiquants de drogue, les Européens de l'Est sont des proxénètes et les Arabes des terroristes, et il y a des enfants soldats armés jusqu'aux dents dans les cages d'escalier des bars HLM du 9-3. Prôner une certaine conception capitaliste de l'argent roi, ça passe aussi par une campagne publicitaire à peine voilée pour Audi dans le moindre de ses films, comme le faisait justement remarquer Mosinor. À côté de ça, Luc Besson, c'est également un fervent défenseur des projets de loi sur la répression du piratage informatique. On a pu le voir, par exemple, s'exprimer publiquement sur le sujet aux côtés de Christine Albanel dans une vidéo mise en ligne par le ministère de la Culture. Sa diatribe dans le magazine Le Monde contre les groupes industriels type Google, Free et compagnie qui profitent du téléchargement illégal pour s'enrichir vient prendre une autre dimension quand on sait que Besson a cofondé une entreprise, Blue Advertainment, qui en plus d'être l'agence responsable de la communication du groupe UMP, s'est retrouvée mêlée de façon assez comique à une affaire judiciaire de droit d'auteur, voilà, pour deux meetings de l'UMP et une petite vidéo sur internet. Blue Advertainment a utilisé une musique du groupe MGMT sans payer de droits d'auteur. Et ensuite, l'entreprise a proposé à MGMT de leur donner 1 euro symbolique en dédommagement. Oui, donc voilà, non, une situation assez comique. Il y a eu d'autres problèmes sur ces problèmes de droits d'auteur en pleine période Adopi et avec le groupe UMP, comme le logo Adopi, etc. Le site J'aime les artistes qui n'a pas été renouvelé, qui a été récupéré par des anti-Adopi, etc.
Puis il y a aussi l'abdub, cette chanson qu'on chante à plusieurs.
Oui,
vous avez repris les paroles d'une chanteuse canadienne sans payer, là encore, les droits d'auteur. Donc là aussi, formidable pour Adopi.
Mais donc... voilà, Besson, cofondateur de Blue Advertainment. Et bon, je vais en terminer. Dernier exemple notable qui vient encore une fois questionner les paradoxes de Luc Besson et ses affinités avec un certain discours officiel. Donc, dans From Paris with Love, le méchant du film est un terroriste islamiste qui manipule une jeune femme pour l'envoyer commettre un attentat suicide. Et le stratagème utilisé pour faire entrer la bombe dans l'ambassade visée est aussi simple que d'actualité. Il suffit que la jeune femme enfile une espèce de burqa et le tour est joué. Personne ne verra rien et elle pourra déjouer les contrôles de sécurité les plus efficaces mis en place. Donc je ne sais pas si à l'heure où les débats sur l'identité nationale et sur le port du voile intégral viennent attiser les vieux Roland pétainistes qui sommeillent toujours en France, la meilleure chose à faire était d'en remettre une couche au cinéma avec le cliché du terroriste à kéfier. Donc voilà, bref, From Paris with Love, à mon avis, c'est un film qui m'a plutôt dérangé, qu'il ne m'a ennuyé. Il y a la banalisation de la violence, de l'usage de cocaïne, de la prostitution décomplexée, la glorification d'une autodéfense et d'une justice expéditive, l'humour à base de stéréotypes qui sont souvent à la limite du mauvais goût, voire de l'intolérance. Tout ça n'est que trop présent dans le nouveau film de Pierre Morel. Par contre, c'est enveloppé, comme d'habitude, dans un bel emballage de buddy movie distrayant, plutôt rythmé, et interprété par une star en roue libre. Voilà, je ne dirai pas à quelle secte il appartient. Cette star en roue libre, ça n'a pas grand-chose à voir.
On pourrait le dire.
Mais en même temps, il y a certains...
C'est un ami de Tom Cruise, non ?
Voilà, exactement. Mais il y a certains idéaux ou certaines idéologies dans le conservatisme, le capitalisme, etc., qu'on retrouve aussi bien dans la scientologie qu'ailleurs.
Ah, mais tu l'as nommé, finalement.
Oui.
D'accord. Bon, alors toi, toi, c'était prescrit par ton médecin, on le sait. Enfin, tu nous l'as révélé, mais sinon, il y avait beaucoup de spectateurs à ta séance ou pas?
Mine de rien, pour un film qui était sorti il y a quelques semaines, j'étais pas tout seul dans la salle, comme ça m'arrive souvent quand je vais voir mon navet hebdomadaire. Non, on est une petite dizaine pour aller voir ça. Mais non, ça, voilà, moi, le gros problème que je vois dans ce film, c'est que sous un emballage de films d'action, de série B, machin, dessous, il y a quand même quelque chose qui est un peu nauséabond, à mon avis.
Et sans doute aucun point de vue, en plus, oui, voilà, c'est ce qu'on peut reprocher, c'est qu'il n'y a même pas de point de vue du metteur en scène, enfin, on oublie complètement ça, c'est du simple divertissement avec des peurs, effectivement, qui font des clichés
qu'on
brasse, des stéréotypes,
Voilà.
Eh bien, merci Martin. On repasse à Polanski, qui lui, fait pas du tout dans le même genre de film. Alors, on a vu que ses premiers films ont remporté des succès tant critiques que publiques. Le summum, ce fut Chinatown. Alors, à partir de 77, Polanski ne pourra pas retourner à Hollywood. Il s'installe alors en France, puisqu'il en a la nationalité. Alors après les films d'épouvante, d'angoisse, d'humour absurde et le film noir, il s'attaque au mélodrame avec Tess en 1979, un film dédié à sa femme qui aurait dit que cette histoire adaptée d'un roman de Thomas Hardy ferait un très bon film. Alors on suit Tess, partagée entre deux hommes, l'un qu'elle aime et l'autre qu'elle côtoie par intérêt. Alors le public boude un peu le film, n'empêche que, paraît-il, moi je l'ai pas vu, que ce mélodrame est... est bien ficelé. Alors, c'en est fini du succès pour Polanski qui enchaîne des grosses productions comme Le Manqué Pirate en 88, souvenir des films d'aventure de son enfance, ou Frantic en 88. Alors, j'ai dû me tromper dans la filmo. Alors, Pirate, c'est en 88 et Frantic, c'est en 92. Alors, ce thriller se déroule à Paris où Harrison Ford est bien obligé de mener son enquête après l'enlèvement de sa femme parce que la police française ne bouge pas le petit doigt. Alors 4 ans après, c'est Lune de Fiel avec au casting Peter Coyote, Hugh Grant, Christine Scott Thomas et sa prochaine femme Emmanuelle Sagnier. Alors adaptation d'un roman de Pascal Bruckner, ce film raconte l'ascension puis la déchéance de la passion entre un Américain et une jeune Française. L'Américain, cloué sur sa chaise roulante, raconte l'histoire à un jeune couple un peu coincé pendant une traversée maritime. Un film qu'on appelle sulfureux parce qu'il est question de sadomasochisme, de plaisir saphique, et puis il y a une scène sexuelle avec une bouteille de lait. Et on se pose la question, l'amour ou plutôt la passion conduit-il inexorablement à la haine et à la destruction? Et on comprend aussi que ça se termine mal.
Enfin, écoute, Mimi, il faut qu'on arrête de se raconter des histoires.
Quelles histoires?
Ben, que nos débuts, c'était joli. Bien sûr, c'était joli, seulement... ça s'est détérioré. Honnêtement. J'espérais que ce serait toi qui prendrais l'initiative. Seulement, toi, t'as l'air satisfaite de laisser les choses traîner en longueur, comme ça. Pas moi, on descend un peu plus bas chaque jour, on finira par se détruire l'un l'autre, je me dégrade en t'avilissant. Ne gâchons pas nos plus beaux souvenirs. Mieux vaut se séparer quand on a encore un peu de dignité.
Mais Oscar, t'es fou. Je t'aime trop, moi. Je veux me marier avec toi. Je veux que tu me fasses des petits. Je veux vivre avec toi, te donner toute ma vie.
Mais j'en ai rien à foutre de ta vie, c'est ma vie à moi qui compte. Quand est-ce que tu vas comprendre ça?
Qu'est-ce que tu me reproches? Oscar, dis-le-moi. Est-ce que je t'ai fait du mal? Même à criminel, on lui dit quels sont ses crimes. Qu'est-ce que j'ai fait?
Rien, tu n'as rien fait. Tu existes. C'est tout.
Alors voilà, on a l'impression que c'est l'Américain qui a de la puissance sur la jeune Française, mais les rôles peuvent s'inverser. Alors en 94, La jeune fille et la mort sort avec une Sigourney Weaver en Amérique du Sud qui croit reconnaître chez un homme qui a aidé son mari à réparer sa roue crevée, ce qui est plutôt louable, elle croit reconnaître la voix du type qui l'a torturé pendant la période de dictature. Cet homme est un docteur interprété par Ben Kingsley, qui l'est aussi docteur dans le dernier Scorsese Shutter Island. Et curieusement, dans les deux films, on ne tranche pas tout de suite pour affirmer que c'est un salaud ou non. Alors il n'empêche, Sigourney veut lui faire la peau et le juger. On assiste alors à une mise en scène du procès où la vérité s'opposera à l'affectif, la justice à la vengeance. Polanski ne prendra pas parti et comme toujours préférera une fin terrifiante. On arrive déjà en 99 avec La Neuvième Porte où Johnny Depp s'occupe à traquer les deux derniers exemplaires du manuel satanique Les Neuf Portes du Royaume des Ombres. Les démons, Polanski, il aime plutôt bien. On est là dans un film d'aventure à suspense où Johnny Depp parcourt l'Europe pour tomber un moment sur une autre mission. C'est une espèce de Tintin donc. L'intrigue est là mais je me souviens qu'à sa sortie j'avais complètement détesté cette histoire où Polanski ne me semblait pas se préoccuper beaucoup de la vraisemblance. Alors il restait alors la mise en scène, les décors et puis le jeu quand même de Johnny Depp. La Neuvième Porte ne fait sûrement pas partie de ses réussites.
Magnifique. Identique. Deux des trois seuls exemplaires à avoir échappé aux flammes réunis pour la première fois depuis plus de trois siècles. Ah oui. Regardez cette légère imperfection ici. Le S abîmé. Les mêmes caractères, la même impression. Oh, incroyable. Et vous voyez, s'il n'y avait pas cette légère décoloration au dos de votre exemplaire, personne ne pourrait les distinguer.
Si vous le permettez, j'aimerais rester un peu ici pour les examiner en détail.
Que cherchez-vous au juste, monsieur Corso?
Je n'en suis pas sûr.
Certains livres sont dangereux, à ne pas ouvrir impunément.
À qui le dites-vous ?
Alors évidemment, hein, il y aura une messe noire, c'est inévitable dans ce genre de film. Passons à l'un de ses véritables succès, au-delà de celui qu'il a eu avec Chinatown, Le Pianiste en 2002. Ce film raconte l'histoire vécue du pianiste juif polonais Władysław Szpilman qui a survécu au ghetto de Varsovie grâce à l'aide des résistants. Il a pu se cacher, ne pas crever complètement de faim et n'a dû son salut qu'à ses talents de pianiste. Alors le film est bouleversant avec une interprétation solide d'Adrien Brody. Oscar, César, Palme d'Or, Golden Globe et un succès public qui est venu plutôt facilement. Alors étrange d'ailleurs hein, de voir Polanski réaliser un pareil film, lui qui a vécu le ghetto de Varsovie un temps et qui s'est toujours refusé à raconter son histoire ou celle de ses semblables et il avait refusé paraît-il eh bien, de tourner La Liste de Schindler et c'est ce que lui avait proposé pourtant Spielberg. Alors bien, on écoute un petit extrait. Voilà comment on fêtait un piano avec une bonne bombe. Trois ans plus tard, il réalise Oliver Twist, adaptation du classique de Charles Dickens. Et enfin, en 2010, il nous revient avec le thriller de Ghost Rider, avec Evan McGregor et Pierce Brosnan, qui sort en salle aujourd'hui. Un thriller politique paranoïaque qui reprend les nombreux ingrédients de sa filmographie. Visiblement une ambiance sombre, une histoire obscure, complexe, doublée d'un complot. Voilà, donc ça promet, enfin, parce que malgré tout, Polanski sait y faire avec ce genre de scénario. Voilà, c'était la fin de ce portrait, fin de cette filmographie. Alors c'était exhaustif, mais pas forcément très très complet. Et je sais pas, d'ailleurs, j'ai pas recherché, il doit y avoir des livres sur Roman Polanski. Sans doute du bel ouvrage. Alors, j'ai pas parlé non plus des opéras, parce qu'il a mis en scène aussi des opéras dans les années 70, et pendant un long moment, dans les années 80, il a mis en scène des pièces de théâtre. Voilà, il n'a pas fait que des films et que l'acteur.
Alors, on va passer à une sortie, donc à une autre sortie. The Ghost Rider, on vous en parlera sans doute la semaine prochaine, quand on l'aura vu. Mais moi, je vais vous parler d'un film qui sort aujourd'hui, puisque la semaine dernière, j'ai fait une belle boulette qui est passée complètement inaperçue auprès de mes éminents collègues.
C'est probable.
Voilà, pour ma part, dans la nuit du mercredi au jeudi, vers 5h du matin, ça m'a réveillé en sursaut. Je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Rob Bowman, réalisateur de Nine. Comme si le responsable d'Electra, du Règne du Feu et du premier film X-Files allait se mettre à faire de la comédie musicale. N'importe quoi. Donc voilà, pour me faire pardonner auprès de Rob Marshall, le véritable réalisateur de Nine, je me suis rendu hier soir au Gaumont à l'avant-première de son film.
Donc c'est Moulin Rouge, lui, c'est ça, non ?
C'est Chicago.
C'est Chicago, ouais.
Chicago. Donc c'est Nine, c'est le troisième long-métrage de Rob Marshall, donc après Chicago et après Mémoire d'une Geisha. Et ce film a un arbre généalogique plutôt intéressant puisqu'il s'agit d'un remake au troisième degré du film de Federico Fellini, 8 et demi. Donc en fait, 15 ans après la sortie en salle de 8,5, le scénario signé par Fellini va inspirer la pièce Six Passionate Women au dramaturge italien Mario Frati. Donc ça, c'est en 78. En 82, Arthur Kopit et Maury Yeston signent respectivement les textes et la musique d'une comédie musicale qui adapte à nouveau l'histoire imaginée par Fellini. Et enfin, aujourd'hui, sort en salle l'adaptation de cette comédie musicale par Rob Marshall qui va réemployer Maury Yeston pour signer la partition du film, qui va en profiter pour réinterpréter un petit peu son œuvre et écrire de nouvelles pièces. Alors Nine nous raconte l'histoire de Guido Contini, un réalisateur qui a eu son heure de gloire par le passé, mais dont les derniers films ont été des flops, selon ses propres termes. Alors qu'il doit commencer le tournage de son nouveau long métrage, Guido est frappé par une panne d'inspiration. Il ne sait plus quoi raconter et ce n'est pas dans ses relations compliquées avec ses multiples muses féminines qu'il va réussir à trouver la sérénité. Donc il fuit Rome pour se réfugier dans une petite station thermale où il va tenter de faire face à ses problèmes de cœur et d'inspiration. Alors Nine, c'est une comédie musicale un petit peu particulière, puisque à la différence des grands classiques du genre, comme West Side Story ou Singing in the Rain, les scènes chantées et dansées viennent systématiquement s'inscrire dans l'imaginaire, dans les fantasmes ou les souvenirs du personnage principal. Et bon, cette distance par rapport à la réalité donne au film de Rob Marshall une dimension onirique plutôt bienvenue, puisque les scènes de ballet sont souvent un petit peu artificielles dans les comédies musicales classiques, et là elles sont en quelque sorte justifiées par leur appartenance à la fiction. Alors de l'histoire inventée par Fellini, Marshall conserve le thème central des affres de la création et de la perte progressive du désir de faire du cinéma quand la vie elle-même a du mal à s'organiser correctement. Et donc pendant 2 heures, Guido Contini, qui est superbement campé par Daniel Day-Lewis, il va se débattre entre apitoiement, introspection et crise dépressive. Et bon, à l'instar de 8,5, Nine souffre un petit peu quand même de cette thématique centrale. De Woody Allen à Charlie Kaufman, en passant par Al Pacino par exemple, la difficulté de l'expression artistique a souvent été le sujet central de scénarios dans lesquels les réalisateurs questionnaient la nécessité de continuer à faire des films ou du théâtre. Mais à cette question, qui peut vite devenir ennuyeuse ou un peu trop cérébrale, eh bien Rob Marshall choisit d'y répondre par plus de spectacles et plus de sensualité. Donc les numéros musicaux, même s'ils ne sont pas tous aussi réussis, viennent chacun à leur façon souffler des réponses à Guido, et la magie de la comédie musicale opère. Là où il aurait fallu un tour de force d'interprétation pour faire passer les mêmes sentiments, les mêmes émotions exacerbées, eh bien la musique, mais aussi les voix et les corps des comédiennes qui se sont particulièrement investies, cet investissement nous fait vibrer plus facilement que s'il avait s'agi de cinéma classique où seule l'interprétation permettait aux acteurs de faire passer ses sentiments. Alors certaines scènes sont à mon avis à couper le souffle, d'autres moins bien sûr. Mais bon, pour ces quelques moments de grâce et de spectacle, Nine est un film à aller voir, même si vous êtes plutôt réfractaire aux comédies musicales. Rob Marshall rend un bel hommage au cinéma, à la danse, à la chanson, et surtout aux femmes, qu'elles soient fortes, fragiles, maternelles, sensuelles, intouchables ou accessibles sur un écran de cinéma ou dans notre lit. La distribution féminine est dans l'ensemble cohérente, souvent originale, malgré peut-être une ou deux fausses notes. Daniel Day-Lewis est comme toujours impeccable et l'alchimie entre tous ces personnages fonctionne bien. Donc voilà, reste que le film est quand même assez long, qu'il manque un petit peu de claquettes à mon goût et que certains numéros musicaux sont un petit peu décevants comme ceux de Sophia Loren ou de Kate Hudson. Par contre, Marion Cotillard, Fergie et Judith Dench nous mettent une bonne claque avec leurs numéros chantés ou dansés. Donc Nine, c'est un petit plaisir coupable parce que ça faisait une éternité que je n'avais pas vu de comédie musicale sur grand écran. Est-ce que j'en ai même vu une seule, puisque ça ne se fait plus trop les comédies musicales aujourd'hui. C'est un petit plaisir coupable aussi parce que c'est un peu de la magie populaire de Broadway, des strass et des paillettes de Cinecittà que Rob Marshall a fait renaître sur écran dans l'ombre du grand Fellini. Et puis, il faut aussi en profiter parce qu'il ne faut pas compter sur Christophe Honoré ou Alain Resnais qui ont fait aussi des comédies musicales, mais il ne faut pas compter sur eux pour nous proposer un tel feu d'artifice d'émotion plus grande que nature et de glamour hollywoodien. Voilà, on va écouter... J'ai préféré ne pas vous mettre de morceaux de Nine et vous laisser découvrir la bande-son directement en salle. Mais on va écouter un petit morceau un peu dans l'esprit et c'est toujours du Alexandre Desplat. Thank you. Voilà donc un extrait de la bande originale de Largo Winch que Alexandre Desplat a signé également.
Donc rien sur, enfin pas grand chose en tout cas sur Shutter Island, le dernier Scorsese. Juste vous encourager à aller le voir parce que c'est une formidable réussite, un film qu'on peut voir selon plusieurs points de vue. Enfin c'est assez extraordinaire, on peut aller le voir deux fois. Et d'ailleurs quand on en parle, on peut pas énormément de parler de l'intrigue, juste dévoiler comment il arrive, comment DiCaprio arrive sur cette île. Qui est en fait un pénitencier déguisé en hôpital psychiatrique. Voilà. Adapté d'un roman qui fut un best-seller de Denis Lehan. Et paraît-il, c'est une très très bonne adaptation, sauf que Scorsese rajoute des images, parce que notre personnage principal, qui est Marshall, et qui arrive pour mener une enquête suite à la disparition d'un. Eh bien d'une femme dans cette île. En fait, je sais plus ce que je voulais dire.
Des images, Scorpion
rajoute. Oui, voilà, il rajoute des images, je suis désolé. Il rajoute des images de l'Holocauste, voilà, de Dachau. Alors ça, il paraît que c'est pas présent dans le roman que je n'ai pas lu. Boris aurait pu nous informer un peu plus. Mais voilà, donc il a rajouté des petites choses qui, en plus, sont très belles visuellement. C'est quasiment plastique. Enfin, quand on voit les corps cadavériques de juifs entassé dans le gel. Enfin, moi, ça, je me suis dit, tiens, je suis dans un musée d'art contemporain. Donc, c'était assez étrange. Alors, pourquoi a-t-il rajouté ça? Ce serait peut-être le seul reproche que j'aurais à faire à ce film. Sinon, c'est une vraie réussite avec un. Dans les images, un côté expressionniste, une très très belle lumière, formidable interprétation de Ben Kingsley, de Leonardo DiCaprio. Voilà, Shutter Island de Martin Scorsese. On passe très très vite aux événements finalement, avec Moulin Rouge, qui sera projeté demain à 20h30 au Diagonal. Il y aura aussi une avant-première, c'est Fleurs du désert, ce lundi 8 mars à 20h30, de Sherry Horman pour la Journée internationale de la femme. Alors ce sera suivi d'un débat. Et puis il y aura Shirin, film d'Abbas Kiarostami, séance présentée par Guillaume Boulanger, professeur de cinéma à l'Université Paul Valéry de Montpellier. Et c'est dans le cadre des soirées hybrides. Organisé par le théâtre des 13 vents, voilà, c'est ça. Et puis après, c'est terminé. Je ne sais pas ce qui se passe du côté de l'Utopia.
On se retrouve la semaine prochaine donc, pour parler de Polanski et puis de plein d'autres films qu'on aura vus d'ici là. Et d'ici là, allez au cinéma, profitez bien de votre semaine et puis à mercredi prochain.
Alors on remercie Joachim à la technique et puis à noter qu'à la fin de ce générique, comme vous en avez l'habitude si vous le suivez, eh bien vous aurez l'extrait d'un singe en hiver. Vous allez pouvoir entendre le gros gabin, comme dirait Poulvorde.
L'intention de l'amiral serait que nous percions un canal souterrain qui relierait le Wang Ho au Yangtze-Kiang.
Yangtze-Kiang, bon.
Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que Wang Ho veut dire fleuve jaune et Yangtze-Kiang fleuve bleu. Je ne sais pas si vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Un fleuve vert. Vert comme les forêts, comme l'espérance. Matelot et nous. Nous allons repeindre l'Asie, lui donner une couleur tendre.
Cinérama.
Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Non, c'est le 14. Non,
le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers,
c'est le 18. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.